Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mais c'est ouf, parce que ce que je vais raconter là, même mes parents sont pas au courant, quoi.
Est-ce que ça ferait pas un an exactement qu'on a commencé Entre Mecs?
Je crois que même ça fait un an et un jour.
Il y a un an et un jour, on tournait avec Mich.
On tournait la bite.
Au sujet de la bite.
Exactement. Exactement. Et surtout, vous vous rencontriez tous les deux.
C'est-à-dire qu'on ne se connaissait pas et...
Et on parlait.
Et toi, ta tub. En vrai, en un an, je trouve qu'on a déconstruit grave de trucs. Moi, je trouve qu'en vrai, tu vois, je croyais vachement en cette série où moi, je commençais déjà à déconstruire des trucs de masculinité et tout. Et je pensais pas que ça m'aiderait autant à ce point-là. Et en vrai, en un an, c'est ouf tout ce qu'on a déconstruit. Et en fait, là, on a une période un peu compliquée. En mode Covid, confinement, etc. Et en vrai, moi, je me suis rendu compte d'un truc de ouf. C'est, je vois tout le chemin parcouru chez moi en un an, et je vois tout le chemin qui reste à parcourir de ouf. Là où je m'étais dit, ouais, je suis trop déconstruit, etc., tu vois. Et ben, en fait, je me suis rendu compte là. Par exemple, tu vois, j'ai eu des grosses galères d'argent, où vraiment, il y a un moment où je me suis dit, la chaîne va s'arrêter, tu vois, où on en avait un peu légèrement discuté, où je me suis dit, là, j'ai plus d'argent du tout. Genre, je pensais pas que, tu vois... j'allais être autant en galère. J'ai vécu une rupture amoureuse aussi. Et genre, tu vois, rien que ma rupture amoureuse ou mes problèmes d'argent, même mes parents sont pas au courant, tu vois. Je me dis, ça se trouve, mais mes parents vont découvrir là avec la vidéo que je suis plus avec ma meuf, tu vois.
Et on leur dit bonjour.
Et je me suis dit, mais en fait, c'est ouf à quel point je fonctionne comme ça depuis toujours. Alors, mon père fonctionne comme ça, donc je pense que je recrée sans pour autant dire c'est la faute de mon père, etc. Mais je pense que mine de rien, je recrée ce truc de masculinité de ouf où je me rends compte que. J'ai une espèce de pudeur extrême sur certains trucs, tu vois, sur des trucs de base où, autant dans un couple, j'ai pas peur de parler de mes sentiments, etc. Autant là, je me rends compte, le moment où il y a la rupture, j'en parle à personne autour de moi. Je pense que pendant le confinement, j'en ai parlé que à toi.
Je l'ai appris très très tard, moi.
Et toi, tu l'as appris hyper tard. Mais en plus, tu m'as fait un truc au parc où à un moment, t'as fait tout le monde est célibataire ici? Et genre, tout le monde a dit oui. Et en fait, t'as pas capté. Et c'est quand on s'est vu après chez Toto que t'as fait. Mais t'es plus avec ta meuf ou c'est comment? Et en gros, j'arrive pas à savoir. Je pense qu'il y a une grosse part de pudeur. Et de dévoiler ses sentiments, etc. Il y a un vrai truc là-dessus. Et je pense qu'il y a une peur de l'échec aussi, tu vois. Parce que galère financière, c'est un échec, tu vois. Ouais. Il y a un moment où vraiment je me suis dit, ah ben en fait, on va arrêter la chaîne, tu vois. On arrête la chaîne, donc qu'est-ce que je fais? Ta rupture amoureuse, c'est quand même un échec, tu vois. Mine de rien, tu dis, bah voilà, t'as construit un truc aux yeux des autres. En plus, tu vois, il y avait un truc où on était un peu le couple parfait, etc. Et le moment où tu dis, bah non, finalement, tu vois, ça s'arrête. Ouais. Ça veut dire que les autres, tu vois, projettent un peu ce truc-là. T'as pas en plus envie qu'on te fasse « Ah, mais pourquoi ?» et tu dois réexpliquer les trucs et tout.
Ouais.
Et je me rends compte que cette pudeur-là, c'est un truc sur lequel je dois travailler de ouf parce qu'elle est hyper présente, quoi.
Effectivement, clairement, je sais que t'as une certaine pudeur sur tes ressentis et tes émotions. Mais par exemple, tu vois, quand l'autre jour, le matin, tu m'as envoyé un texto en me disant « Bon, bah, ça va ?»« Bah ouais, bah, je crois que c'est la fin de la chaîne. » J'ai fait « Ok. » Ok, viens prendre le café à l'appart, là.
Ce qui est ouf, c'est qu'au moment où tu me demandes et je dis « C'est la fin de la chaîne », c'est pas genre je me rends compte le matin que c'est la fin de la chaîne, tu vois. C'est genre je garde ça depuis 3 mois, ouais. Et là c'est au moment où genre mon banquier m'appelle et fait mais vous êtes dans le rouge en fait, là c'est la mort. Et là tu vois, j'éclate. C'est pas genre ouais je pense que ça va être la fin de la chaîne mais je vais réfléchir un peu comment on peut se retourner. C'est vraiment genre c'est la putain de panique, tu vois. J'attends le dernier moment et ça éclate à ce moment.
Mais en même temps, tu vois, ce jour là la pudeur tu l'as fait quand même vachement tomber. Je t'ai vu peu de fois,
ouais, c'est vrai.
Comme cette journée là
je vois ce type de pudeur. Est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi où t'as pas envie d'infliger tes problèmes et t'as juste envie de donner le meilleur et le plus positif aux gens?
Bah, en vrai, tu vois, j'ai vachement l'image aussi que ce soit d'un point de vue perso, mais aussi d'un point de vue, tu vois, mon personnage public. Tu vois, il y a aussi un genre de mec, tu vois, où dès que je fais une FAQ sur Instagram, je reçois trop de messages de « Ah, comment tu fais pour avoir toujours le smile, toujours le truc et tout, tu vois, d'être toujours de bonne humeur et tout. » Mais non, et à chaque fois, tu vois, je me dis « Bah non, en fait, tu vois, je suis pas comme ça, je suis comme tout le monde, tu vois, il y a des moments de down énormes. » Et après, ouais, je pense qu'il y a un truc aussi de préserver les gens, au-delà juste de ma honte personnelle, tu vois, de l'échec. Ce qui est hyper paradoxal, parce que moi, je suis le premier à écouter les problèmes des gens et à me dire, bah, au contraire, tu vois, on est là aussi pour s'entraîner. s'entraider et de pas être tout seul, tu vois. Mmh. Et je suis le premier à donner des conseils aux gens en disant, bah, parle-en justement, et c'est, sinon ça va te monter dans la tête et tu, ça va devenir un truc énorme, alors que plus t'en parles, plus tu trouves des solutions.
Mmh. Est-ce qu'il y a pas aussi un... Est-ce qu'il y a pas de Lego là-dedans?
Je pense, non, ouais, il y a de l'ego. Mais de toute façon, la peur de l'échec.
Ouais. Mmh.
La peur de l'échec, je pense qu'il y a une.
Mais clairement, le fait que tu sois en rouge et que tu as failli arrêter la chaîne et le fait que tu sois plus avec ta copine, ça, tu vois ça comme un échec. C'est violent. Bah,
non, échec, en fait, ce qui est horrible, c'est que moi, alors si les galères d'argent et le moment où en fait c'est devenu assez critique pour vraiment me dire, ah, peut-être qu'il va falloir que je retrouve un emploi, tu vois. Mmh. Là, je me suis dit, putain, c'est vraiment un échec de ouf parce que c'est au moment où la chaîne, elle commence vraiment à décoller, où là, on était à ça, tu vois. Autant ma rupture amoureuse, tu vois, moi, si tu me demandes que moi, je vois pas ça comme un échec parce qu'on a vécu des trucs de ouf, qu'on est en train de vivre une rupture hyper saine aussi. C'est-à-dire que, tu vois, on en a beaucoup discuté, on continue à se parler. Enfin, tu vois, il y a un truc vraiment, on est devenus des très bons potes. Mais socialement, j'ai l'impression qu'il va falloir réexpliquer ça aux gens. Et il y a une part de moi qui dit, mais en fait, d'où t'as justifié en fait, de dire aux gens, oui, bon, on s'est séparés, mais ça se passe très bien, et tu sais, de réexpliquer le truc. Alors en fait, juste l'information, on s'est séparés, c'est notre histoire, et voilà, ça ne regarde que nous.
Dans les relations amoureuses, tu sais que j'ai tendance à me... J'avais tendance à me focaliser sur les problèmes de l'autre pour apporter des solutions, plus que de se... Enfin, oublier tes propres emmerdes, tes propres trucs. Et du coup, t'es ce personnage un peu toujours compatissant, accompagnant, etc. Ouais. Qui est une manière complètement toxique de fonctionner. Hein, parce que, en fait, tu te perds dans l'autre et tu finis par oublier tes propres trucs. Mmh. Alors qu'en fait, un couple, c'est quand même garder deux identités distinctes.
Ouais, t'oublies tes envies, t'oublies vraiment de quoi t'as
besoin. Et au final, du coup, c'est pas par pudeur de tes... propres sentiments, mais c'est plus parce que tu as décidé de les oublier ou de les mettre de côté. Mmh. Enfin, je sais que moi, je le crée plus par pas envie de déranger, pas envie d'être un poids, et surtout pour montrer que je suis fort ou pour montrer que je suis capable de surmonter telle ou telle chose. Ouais. Et parce que, par exemple, j'exprime très facilement ma tristesse, je pleure beaucoup, je suis assez expressif sur mes émotions, sur mes sentiments.
Ouais, en fait, même pendant le confinement, tu vois, ou de manière globale, à chaque fois, tu me racontes très facilement en fait, l'état d'esprit dans lequel
t'es. T'as pas besoin de poker très longtemps, quoi. Ouais. Hein. Soit je chiale, soit je bitch, soit...
Yes. Est-ce que vous avez l'impression de dévoiler facilement vos sentiments, qu'il y a vraiment un truc de dire un mec ne doit pas, tu vois, doit garder une certaine posture?
Plus maintenant, mais oui, en fait. Moi, je me suis fait il y a quelques années maintenant. Il y a 5 ans, un épisode maladie à l'hôpital. Personne ne savait ce que j'avais. Et je suis tombé vraiment très malade pendant plusieurs semaines. J'ai passé un Noël et un Nouvel An à l'hôpital. C'était fabuleux.
Bonne ambiance.
Qui me diagnostiquait un cancer. J'avais 25 piges. Et en fait, j'ai cru que j'allais crever. Comme c'est les fêtes, ça mettait vachement de temps à... les tests à arriver, les résultats. Donc en fait, j'ai su ce que j'avais, mais que des semaines et des semaines après ma sortie de l'hôpital. Ah ouais. Mais j'ai été admis avec un mauvais diagnostic. T'as l'interne qui commence à te parler de chimio et tu fais OK.
Ah, on en est là.
Ouais, okay. On en est. Erreur de diagnostic, hein. Donc en plus, voilà. En fait, pendant 24-48 heures, je me tape ce gros bad là, quoi.
Et t'es seul à l'hôpital?
Ouais, parce que les proches sont pas admis. Donc il y a la visite en journée, mais le soir t'es tout seul, quoi.
Donc t'es seul face à toi-même, tu te dis j'ai 25 piges, on vient de me dire que...
Seul face à toi-même qui dort toute la journée parce que t'es HS, ouais. Mais quand même, quoi, bonjour les angoisses derrière. Et en fait, en sortant de ça, en fait, s'avère que c'était pas si grave que ça, c'était juste un truc qui m'avait mis le système immunitaire en PLS et qui m'avait mis un gros coup de fatigue. Okay. Et en soi, c'était pas bien grave. Mais avec ce mauvais diagnostic, je suis ressorti de là avec une sensation de seconde chance. Mm. Et après ça, je me suis mis presque automatiquement à dire je t'aime à ma famille, à ma sœur, à chaque fois que je les ai au téléphone, ma grand-mère. Bon, ça m'a... engagé vers le chemin de me reconnecter aussi avec mon père, parce qu'à l'époque, on ne partageait pas du tout une relation proche. De relier avec les proches et de leur dire, de leur rappeler. Chose que j'avais tendance à avoir tenue pour acquis.
pendant longtemps en disant bah oui c'est mes proches ils sont là et c'est pas le je t'aime à ma maman à mon papa c'est pas quelque chose qui était tabou qu'on me disait pas à la maison mais c'était quelque chose que j'avais peut-être juste oublié
et là donc c'était il y a 5 ans
ouais
est-ce que 5 ans après t'as perdu ce truc là
non c'est toujours là
ah. Putain ça c'est ouf ça veut dire que c'est un vrai déclic que ouais. ça t'a fait en mode seconde chance et qui potentiellement peut rester jusqu'à la fin de ta vie quoi.
Bah, c'est après que je suis parti au Canada, que...
Ah, ça t'a fait un déclic de vie, de ouf ?
Dans l'année suivante, ouais.
Ok.
Je vous avais raconté un jour que je... Avant d'être comédien, j'étais en informatique. Je faisais des maths, d'info. D'abord en DUT, et puis en école d'ingénieur. Et j'ai un cousin qui s'appelle Lucas Vébrouck, de les gars. C'est le genre de personne... Alors déjà, c'est mon cousin marocain, le plus francophone, et du coup, c'est un peu le grand frère que j'aimais. Et bah, une fois mon bac en poche, machin, une fois passé la puberté, en tout cas, on s'est dit, ce serait cool d'aller boire une bière, en plus, il était à Paris. Puis de temps en temps, on disait, ah, moi, je peux pas le 24, mais est-ce que tu peux le 6, peut-être ? Non ? Ah, ok. Puis on s'est croisés très rapidement, mais pas grand-chose, quoi. Et puis il y a eu, lui, il travaillait en tant que photographe pour l'EPA, qui est la European Press Agency.
Ok.
Donc il était photo-reporter, et puis arrive le printemps arabe, et il fait son métier en fait, enfin, juste il se prend un flashball de la police tunisienne.
Ok.
Et à 30 ans, et ben hop, plus de cousin. À 30 ans, et ça... Et tu vois sur son Facebook à ce moment-là, il écrit « Ah ben vas-y, on se voit mon vernissage. » Enfin, tu vois tous les projets qu'il avait. Tout le... Et c'est la première fois que j'ai vraiment pris une espèce de claque dans la gueule de « Non, tu n'es pas obligé de vieillir en charentaise au coin d'un feu avec tes petits-enfants, etc. Tu peux canner à tout moment. » Et c'était extrêmement... symbolique en tout cas de plein de choses sur un nouveau schéma de pensée à partir de là.
Toi, t'avais quel âge ?
J'avais 19, 20.
Ah ouais, ok, oui. Oui, donc t'es quand même assez vieux en plus. Et en plus, t'es l'âge de l'insouciance de ouf où tu te dis que t'es immortel en plus.
Ouais. Enfin, là, demain, je me prends un bus. Quoi ? J'aime bien ma vie. J'ai essayé de faire quelque chose en m'écoutant.
Ouais.
Où j'essaie de plaire à Micheline et Robert parce que faut accepter les rails de la bienséance, du chien de la piscine et de la... Et plein de changements. Du coup, déjà, j'ai commencé par quitter mon école d'ingénieur parce que j'ai détesté ce que je faisais. Ouais. Mais vraiment, vraiment.
Ça a été le déclic très personnel, mais... C'est le déclic qui a fait aussi que tu as quitté l'école
Oui, enfin, ça s'est ruminé lentement, etc. Mais après, on est très fort via les fêtes, l'alcool et la drogue, les sorties, etc. Pouvoir juste mettre des rustines comme ça sur...
Tu vois, c'est la poussière sur le tapis, hop, ça dégage.
Non, mais ça va, je gère.
On verra demain.
Et en vrai, il est là, toujours. Mm.
Tu sens, genre, quand t'as des choix à faire, t'as ce truc-là qui te revient en mode « Vas-y, ouais. Là, c'est bon, là, je vais pas jouer la sécurité alors que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. »
Oui, en tout cas, il participe toujours à écouter mes tripes et à vraiment sentir les choses et à faire en sorte que mes choix soient vraiment basés sur le fait que, intimement, j'ai envie ou non de faire ou de ne pas faire. Et du coup, sa copine, Nathalie, elle a organisé un festival qui se tient à l'hôtel de ville tous les ans et qui récompense les photoreporters chaque année. C'est le prix de les gars. Voilà. Ah oui, et puis il m'a montré aussi qu'il faut arrêter d'attendre. En fait. J'ai jamais pris cette bière avec lui. Parce que c'est beaucoup plus simple de reporter les... De dire on verra plus tard, on a du temps, il n'y a pas le temps, pas le temps, putain. Faut faire les choses, quoi. Si tu le sens, si t'as quelqu'un, dis je t'aime, putain, va fais les trucs, il n'y a pas de demain, enfin, vraiment. Même si ça fait peur, etc. Il est très chelou mon conseil, mais on peut caler en fait.
Mais c'est important de le dire parce qu'on a tendance à l'oublier souvent.
Ouais.
Des fois, on se raccroche à des trucs de sécurité de merde et t'as envie de dire, mais demain, tu vas crever.
Ouais.
Tous tes trucs de sécurité de la journée, à quoi ils te servent vraiment, tu vois ? Genre, tu te raccroches à ça, mais demain, tu crèves. Qu'est-ce que t'auras fait ? T'auras passé 10 ans dans un boulot de merde qui te plaît pas, à pas faire le vrai truc que tu veux faire, quoi.
Justement, là, par rapport à il y a 10 ans, aujourd'hui, Alors c'est peut-être bizarre à dire, mais c'est quelque chose qui me rassure. Le côté au pire on meurt, c'est quelque chose qui, enfin, je vois juste d'un autre angle, mais tente et échoue des choses. Ouais. Au pire on meurt, en plus tout le monde meurt. Du coup, c'est, moi en tout cas, ça me donne une raison encore plus de tenter des choses qui me font peur.
Alors ça peut être un moteur des fois même pour faire des trucs.
C'est complètement un moteur, ouais. Et parce qu'en plus, ça te fait réaliser la chance que t'as d'être encore là, d'avoir un toit, deux mains, deux pieds.
C'est clair.
C'est très bisounours, mais tellement vrai. Vraiment. Tu te rends compte des chances, mais simples, que t'as de vivre là.
C'est clair.
Voilà.
Bah, ce retour d'entre mecs, il est plutôt stylé.
C'est exactement ça que j'ai eu dans l'anus.
Lâche-moi!
Je veux pas. Ah non, ouais, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est, je veux pas. Je voudrais qu'on passe.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.